Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans ce cours d'exégèse expliquant l'évangile de Saint Marc avec le texte des Pères de l'Église, nous en sommes au chapitre 11. Donc nous commençons maintenant un nouveau fichier sur le site. Donc le fichier qui contient les chapitres 11 à 16, donc toute la dernière partie de l'évangile selon saint Marc. J'ai également changé le fichier PDF qui groupait les chapitres 6 à 10 pour corriger les fautes de frappe et fautes d'orthographe que j'avais repérées. Donc, sur le nouveau fichier, donc, chapitre 11, page 1. Ça marque. Donc. Comme ils approchaient de Jérusalem et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, il envoya deux de ses disciples. Et Jésus leur dit, « Allez au village qui est devant vous, et aussitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel nul homme ne s'est encore assis. Déliez-le et amenez-le. » Et si quelqu'un vous dit « Que faites-vous ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera amener ici. » Étant donc allés, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors devant une porte entre deux chemins, et ils le délièrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur disaient « Que faites-vous ? Pourquoi déliez-vous cet ânon ?» Et ils leur répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et ils le laissèrent emmener. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils mirent leurs vêtements, il s'assit dessus. Beaucoup étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et les jetaient sur le chemin. Et ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient en disant « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne de notre Père David qui arrive, Hosanna, au plus haut des cieux. Comme ce cours est supposé être pour le mercredi 8 avril, ça tombe bien, le bon Dieu sait ce qu'il fait, et ça tombe justement dans le temps de la semaine sainte. Alors nous allons voir un petit peu ce que disent les pères sur ce passage. Je vous ai déjà expliqué, il y a certains passages de l'Épître aux Saints qui ont été davantage expliqués par les pères. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cet ânon. Qu'est-ce que veut dire l'ânon ? Qu'est-ce que veut dire cette cérémonie ? Donc, nous sommes quelques jours de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que je voudrais que vous compreniez bien, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, c'est que cette fête de la Pentecôte nous donne un avertissement terrible. Absolument terrible. Avertissement qu'il faut beaucoup, beaucoup méditer. On appelle ça le grand avertissement de la Passion. Voyez-vous, c'est un jour de fête. On voit ici dans le texte que les gens de Jérusalem vont accueillir notre Seigneur Jésus-Christ avec des cris de joie. Ils vont même couper les branches d'arbres, jeter les branches sur le chemin et même qu'ils vont étendre leurs vêtements sur le chemin pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse remonter avec l'anneau sur le petit âne, donc comme un chemin d'honneur. Et tout le monde crie Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est magnifique. Oui, le seul problème technique, c'est que 5 jours plus tard, le jour du jeudi saint au soir, ces mêmes personnes seront devant, et le vendredi saint aussi, seront devant le palais de Ponce Pilate, à la forteresse Antonia, à Jérusalem, en train de hurler autre chose. Au lieu de crier Hosanna, plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ils vont crier qu'il soit crucifié, les mêmes personnes. Ceci doit nous faire, mes bien chers frères, très sérieusement réfléchir, parce que c'est notre histoire. Moi aussi, sans la grâce du bon Dieu, moi qui ai crié le jour de ma dernière confession, le jour de ma dernière communion peut-être, j'ai crié Hosanna pour celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne du Père David qui arrive, de notre Père David qui arrive, Hosanna au plus haut des cieux. Eh bien, sans la grâce du bon Dieu, je peux être le premier à crier qu'il soit crucifié. Quand je prêche les exercices Saint-Ignace, souvent j'en parle après les confessions générales, au moment de la Passion. Les gens ont fait leur confession générale, souvent de plusieurs années, parfois toute leur vie. Ils ont fait leur première communion, leur deuxième première communion. Ils sont tout heureux d'avoir bien profité de la première partie de la retraite. Et lorsqu'on médite à la troisième semaine, la troisième partie de la retraite, la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, je leur fais cette remarque suivante qui s'adresse à tout le monde, y compris à moi d'ailleurs, au prédicateur. Et je leur dis, voilà, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que l'un d'entre nous, il a dit ça aux apôtres, l'un d'entre vous me trahira. C'est Judas qui va le trahir. Pourtant, Judas avait vu les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le grand avertissement de la Passion, c'est celui-là. J'honore notre Seigneur Jésus-Christ par une bonne confession, une bonne communion, mais sans sa grâce, je peux être le premier à commettre un péché mortel et tuer notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme. Et je leur dis, donc la question qu'il faut se poser est quel est celui qui, le premier, va perdre la grâce sanctifiante après la retraite? Et je leur dis, Dieu seul peut répondre à cette question. Ça peut être moi. Sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas une seule faute commise par une autre personne que je ne puisse pas commettre plus vite que lui. Donc ceci doit nous maintenir dans l'humilité, mes bien chers frères. Cet avertissement de la Passion est très important. Les grands traîtres ont souvent été des grands amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ souffre beaucoup plus de voir des amis qu'il trahisse que de voir des ennemis qui le trahissent. Parce que de ses ennemis, il n'attend pas autre chose, justement, qu'une trahison. Tandis que de ses amis, il attend un acte d'amour. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères sur ce sujet. D'abord, Saint Jérôme. Donc, c'est sur la page 1 du Polycopier, qui couvre les chapitres, encore une fois, 11 à 16. Les gens crient Hosanna, c'est-à-dire Sauvez-moi, pour demander à Jésus, à notre Seigneur Jésus-Christ, que les hommes soient sauvés par ce Sauveur béni, par ce vainqueur qui vient au nom du Seigneur, c'est-à-dire au nom de son Père. Car c'est du Père que le Fils prend son nom, comme c'est du Fils que le Père prend le sien. En fait, en honorant notre Seigneur Jésus-Christ, on honore la Sainte Trinité tout entière. N'oublions pas, mes bien chers frères, qu'à chaque fois que le bon Dieu vous donne l'absolution par le prêtre, c'est pas simplement notre Seigneur Jésus-Christ qui vous pardonne, c'est aussi le Saint-Esprit et Dieu le Père. Trois personnes en un seul Dieu. Lorsque vous communiez, ce n'est pas simplement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, vous recevez aussi la Sainte Trinité tout entière, attention. Et lorsqu'on offense notre Seigneur Jésus-Christ par le péché mortel, c'est la Trinité tout entière qu'on offense. On offense aussi Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Donc les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ sont envoyés deux à deux. On le voit au chapitre 11, verset 1. Il envoya deux de ses disciples. Et les pères expliquent que ce chiffre 2 représente la vertu de charité qui ne peut s'exercer sur un seul. C'est pour ça que Dieu envoie deux personnes. Malheur à celui qui est seul. Voilà le texte des pères. Les disciples de Jésus-Christ sont appelés, ils sont envoyés deux à deux parce que la charité ne peut s'exercer si on est seul. Malheur à celui qui est seul. Ce sont deux hommes qui dirigent les Hébreux dans leur sortie de l'Égypte, c'est Aaron et Moïse, deux hommes qui rapportent de la terre sainte la grappe de raisin pour enseigner à ceux qui sont placés à la tête des autres, à joindre toujours l'action à la science, à tirer les deux tables, les deux commandements. à se purifier dans les deux fontaines, à porter l'arche du Seigneur sur deux bâtons, et afin qu'ils apprennent à connaître le Dieu assis entre deux chérubins, lui offrent le double hommage de l'esprit et du cœur. Vous voyez, les pères de l'Église voient toujours dans les chiffres des symboles. C'est surtout saint Augustin qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et saint Bède le Vénérable note que Béthanie veut dire maison d'obéissance, parce qu'ils approchaient de Jérusalem et de Béthanie, maison d'obéissance. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ va commencer sa passion en obéissance à son Père. Avant sa passion, notre Seigneur s'était préparé par ses enseignements dans l'âme d'un grand nombre une maison d'obéissance. Et dans la maison, dans la mesure où mon âme devient une maison d'obéissance, notre Seigneur Jésus-Christ va pouvoir pénétrer dans mon âme. Il ne pénètre pas dans une âme qui est pleine d'orgueil, pleine d'elle-même. Et les pères font remarquer que Béthanie, c'était l'endroit où habitaient Saint Lazare, Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe, Béthanie est située sur le versant de la montagne des Oliviers, figure de l'onction des dons spirituels et de la lumière de la science et de la piété, par lesquels le Seigneur, le Sauveur, anime et réchauffe son Église. Il envoie ses disciples dans le village qui est devant eux, c'est-à-dire qu'il a chargé les docteurs de pénétrer par la prédication de l'Évangile dans toutes les forteresses où l'ignorance du monde semblait s'être réfugiée. Donc il envoie les apôtres, en quelque sorte, pour annoncer la Passion. Allez dans le village qui est devant vous, et vous y dès que vous serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché. Amenez-le, déliez-le, amenez-le. Donc c'est le symbole, si vous voulez, des apôtres qui sont envoyés dans le monde pour prêcher la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et donc cette ville dans laquelle ils sont, le village dans lequel ils sont emmenés, disent les pères, représente la forteresse du monde, c'est-à-dire l'ignorance du monde. Donc cet ânon que notre Seigneur Jésus-Christ se fait amener n'était pas nécessaire au Sauveur, notre Père. Jésus l'envoie chercher pour donner à entendre qu'il devait bientôt appeler à lui les gentils. Certains pères disent que l'ânon représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit par exemple dans un autre passage. Vous vous rappelez, dans le passage du bon Samaritain. Le bon Samaritain arrive sur son âne. Il voit cet homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho, qui est passé du ciel à cette terre, qui est tombé au milieu des brigands, c'est-à-dire qui est tombé dans le péché, qui est à moitié mort. Et il va d'abord s'apitoyer sur cet homme, verser sur les plaies l'huile et le vin pour purifier les plaies. Et il va déposer cet homme moribond sur sa propre monture. Et cette monture, c'était un âne aussi, représente l'humanité de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ va charger nos péchés sur sa propre humanité. Alors les pères vont expliquer un peu les choses en bas de la page 1. Cet ânon libre et indompté, il est noté au verset 2, que l'ânon attaché était un ânon sur lequel nul homme ne s'était encore assis. Cet ânon libre et indompté est la figure du peuple des nations. Le peuple des nations, c'est les gentils, les non-juifs. Personne ne l'avait encore monté. C'est-à-dire, page 2, qu'aucun sage docteur n'avait encore, par des enseignements utiles, imposé à ce peuple le frein de la discipline pour préserver sa langue des paroles coupables ou le forcer d'entrer dans l'étroit sentier de la vie. Pourquoi ? Parce que c'est encore avant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par son crucifiement, notre Seigneur Jésus-Christ va nous donner l'exemple de la vertu de pénitence pour freiner, être le frein de la discipline à cause de nos péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais péché. Pourtant, lui qui est innocent va payer pour nous. Mais il nous demande de coopérer par le port de notre propre croix. Saint Jérôme lui dit que cet ânon attaché devant la porte en dehors représente et l'emblème du peuple des gentils, retenu dans les liens du péché devant la porte de la foi en dehors de l'Église. C'est pour ça qu'il ne rentre pas, il reste à l'extérieur parce qu'il est encore sous les liens du péché. Et les apôtres qui vont délier l'ânon annoncent notre Seigneur Jésus-Christ qui va délier les hommes des gentils, donc du peuple des non-juifs, qui va les délier des chaînes de l'ignorance, des chaînes de l'erreur, des chaînes de péché, pour les amener à participer au mystère de la passion et de la résurrection. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ va monter sur cet anneau. C'est-à-dire qu'il va unir sa divinité à notre humanité pour, par sa croix, par le mystère de sa passion, racheter notre humanité pécheresse. C'est ce que veulent dire les pères. Saint Ambroise, page 2, en haut de la page, au troisième paragraphe, explique. Ils trouvèrent l'anneau attaché devant la porte. C'est-à-dire que tout homme qui n'est pas avec Jésus-Christ et qui demeure dehors est sur la voie. Mais celui qui est en Jésus-Christ ne reste pas dehors. L'Évangile ajoute qu'on le trouva entre deux chemins où tout le monde passe, dans un lieu dont personne ne pouvait revendiquer la propriété. Il était là, sans étable, sans nourriture, sans crèche. C'est le verset 4. « Étant donc allés, ils trouvèrent l'anneau attaché dehors devant une porte entre deux chemins et le délièrent. » Ça présente justement ce peuple des gentils qui ne savaient pas du tout où aller. Ils étaient dans les ténèbres de la mort, dans les ténèbres de l'ignorance, du péché, de l'erreur. Et donc, notre Seigneur, en détachant l'anneau, faisant détacher l'anneau, va couper ces chaînes du péché et va enlever les écailles qui, d'une certaine façon, étaient sur les yeux des peuples des gentils. Quelle misérable servitude que celle qui n'a aucun droit certain. On est l'esclave de plusieurs maîtres quand on ne dépend pas d'un seul. Les étrangers lient pour assurer leur possession. Le maître légitime met en liberté pour conserver, car les bienfaits sont des liens beaucoup plus puissants que les chaînes. Les chaînes, c'est quoi? Les chaînes, c'est les chaînes du démon. Notre Seigneur Jésus-Christ, en nous délivrant des chaînes du démon, des chaînes de l'erreur, nous donne la véritable liberté. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens du monde prétendent être libres. En fait, ils sont enchaînés. Et les gens du monde prétendent que les catholiques sont enchaînés, alors qu'en fait, les catholiques sont libres. Voilà un point doctrine très important à bien comprendre. Les gens du monde, les gens qui vivent sans notre Seigneur Jésus-Christ, qui vivent dans le péché jusqu'au cou, sont enchaînés par les trois concupiscences. Ils sont esclaves de la concupiscence des yeux parce qu'ils veulent tout. Ils sont esclaves de la concupiscence de la chair parce qu'ils sont sous l'emprise du démon de l'impureté. Et ils sont esclaves de la concupiscence de l'orgueil parce qu'ils se croient le centre du monde. Et donc ils sont enchaînés. Ils ont l'impression d'être libres. Ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance. Donc ils ont l'impression d'être libres. En fait, ils sont enchaînés, ils sont esclaves. Au contraire, les gens qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ ont coupé les chaînes des trois concupiscences parce qu'ils suivent les conseils évangéliques. Ils suivent le conseil évangélique de pauvreté et par là, ils ont coupé la chaîne de l'esclavage des choses matérielles, l'esclavage des yeux. Ils ont coupé les chaînes de la concupiscence de la chair par l'esprit de chasteté et ils ont coupé les chaînes de l'orgueil par la vertu, l'esprit d'obéissance. Donc contrairement à ce que les gens du monde pensent, les gens qui vivent selon notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa loi, sont les gens qui sont véritablement libres. Donc où sont les gens les plus libres? Les gens les plus libres sont les moines dans un couvent qui sont fidèles à leurs trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Ils ont coupé les chaînes des trois concupiscences, ils sont donc parfaitement libres. Et pourtant, les gens du monde sont incapables de comprendre ça et vont plaindre ces pauvres religieux en disant « Quel malheur, ils sont obligés de suivre des horaires, ils sont obligés de se lever tôt le matin, de se lever au milieu de la nuit pour l'office des matines et de l'aude, et puis ils sont obligés de se relever le matin pour l'office de prime, et puis ils ont la méditation, ils ont la messe, ils ont tout ça, pauvres gens, ils sont complètement esclaves de leur Dieu. » Mais de qui vaut-il mieux être esclave? Est-il préférable d'être esclave de Dieu, infiniment bon, infiniment aimable, ou être esclave du monde? Les gens qui vivent dans le monde moderne, mes chers frères, sont esclaves, alors qu'ils se croient libres. Et les gens qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ, que le monde prend pour des esclaves, sont en fait libres. Un grand mystère. « Donc, Saint Bède le Vénérable dit, on peut dire encore qu'il était dans un carrefour, parce qu'il ne se tenait pas dans le chemin certain de la foi et de la vérité. C'est pour cela que cet âne, cet ânon, nous dit au verset 4, l'Évangile nous dit que cet ânon était entre deux chemins. Donc il suivait, au gré de l'erreur, les sentiers innombrables et douteux des sectes diverses. Donc il ne savait pas où aller, il était entre deux chemins. En plus, il était dehors, il ne pouvait pas rentrer dans la maison c'est l'église. Donc, les apôtres qui vont détacher cette âne vont le conduire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il était perdu entre deux chemins, ne sachant pas où aller. On va lui montrer la route, le chemin véritable qui amène à notre Seigneur Jésus-Christ. Et en trouvant notre Seigneur Jésus-Christ va chevaucher l'ânon et va donc unir sa divinité à notre humanité. Et par le sacrement de pénitence, va nous pardonner nos péchés. C'est ça que veulent dire les pères. Ces deux chemins, disent encore les pères, sont la figure du libre arbitre qui hésite entre la vie et la mort. Le bon Dieu nous sauve, veut nous sauver, mais tout en respectant notre libre arbitre. Alors comment est-il possible que la grâce du bon Dieu soit toute puissante et qu'en même temps cette grâce toute puissante puisse respecter notre libre arbitre? C'est là un très grand mystère. C'est peut-être le plus grand mystère de l'histoire du christianisme. Comment les deux choses sont-elles possibles? C'est un mystère, mais notre Seigneur Jésus-Christ sait comment résoudre ce mystère. Sa grâce est toute puissante, mais cette grâce ne viole pas notre libre arbitre. Nous sommes libres de suivre ou de ne pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons très bien qu'en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, on va trouver la véritable liberté, celle qui sauve, qui amène au ciel, et qu'en refusant de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, on va trouver une fausse liberté. La fausse liberté consiste à être enchaîné par les trois concupiscences. Et le démon, qui est le prince des menteurs, va nous faire croire qu'en nous donnant à lui, au démon, en s'enchaînant, en se mettant sous le joug des trois concupiscences, on va trouver la véritable liberté. En fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. En se soumettant au démon, ben, on trouve les tentations, on trouve toutes le péché qui nous amène loin de Dieu. Les vêtements dont les apôtres couvrent l'animal représentent ou la doctrine des vertus, ou le don d'interpréter les Écritures, ou la variété des dogmes de l'Église. Les cœurs des hommes, autrefois nus et glacés, sont couverts de ces vêtements pour devenir des sièges dignes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va nous couvrir de sa grâce, de son ombre, de même que la très sainte Vierge Marie a été couverte par l'ombre du Saint-Esprit en devenant la mère de Dieu. De la même façon, à notre niveau, nous sommes nous aussi couverts par la grâce de Dieu. L'ânon est nu, il va être recouvert de la grâce du bon Dieu. Donc ces vêtements que les gens vont placer sur l'ânon, et donc verset 7, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils mirent leurs vêtements. Donc ils vont placer les vêtements non seulement sur l'ânon, mais aussi ils vont étendre ces vêtements sur le chemin, dans les deux endroits. Donc les cœurs des hommes vont pouvoir s'asseoir sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, plus exactement, va asseoir sa divinité sur notre humanité. C'est pour ça qu'il s'assoit sur l'ânon qui représente son humanité et donc aussi la nôtre, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a pris notre humanité. Donc ces vêtements dont il couvre l'ânon, nous dit Saint Jérôme, c'est la robe première d'immortalité dont se revêtent les gentils par le baptême. Vous savez que avant, en dehors des temps de persécution, lorsqu'on baptisait les adultes, à l'époque on baptisait que les adultes au début de l'histoire de l'Église, on les baptisait la vigile de Pâques ou la vigile de la Pentecôte. Et après le baptême, on revêtait le catéchumène qui venait d'être baptisé d'une robe blanche, d'une aube blanche, qu'il allait garder toute la semaine. Toute la semaine. Et c'est pour ça qu'on appelle le dimanche qui suit la fête de Pâques le dimanche in albis, le dimanche en blanc. Parce que c'était le jour où les catéchumènes, les nouveaux baptisés, pardon, allaient enlever leurs vêtements blancs. Pourquoi ce vêtement blanc? Parce que ce vêtement blanc, la couleur blanche de l'aube que mettaient les nouveaux baptisés, représente la foi catholique, la vertu de charité, la vertu de pureté. Et même dans les baptêmes d'enfants, on revêt l'enfant d'un vêtement blanc. En général, l'enfant se présente déjà aux fonts baptismaux avec un vêtement blanc, mais au moment du baptême, on rajoute sur la tête de l'enfant un petit fichu blanc, un petit bonnet blanc, pour marquer justement que notre Seigneur Jésus-Christ est maintenant maître de cet enfant qui, par son baptême, est devenu enfant adoptif. Fils adoptif de Dieu, le baptême donne le caractère d'enfant de Dieu, attention. Et ce caractère est nécessaire au salut. Ne croyons pas, mes bien chers frères, ce que nous raconte Bergoglio qui prétend que tous les hommes sont enfants de Dieu, c'est faux. Tous les hommes sont créatures de Dieu. Mais seuls sont enfants de Dieu ceux qui sont baptisés. C'est pour ça que le baptême est nécessaire au salut. Et que notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer les apôtres de par le monde. Ce n'est pas pour rien qu'il leur dit, allez prêcher, baptiser. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croit pas, qui n'est pas baptisé, sera condamné. Donc Jésus monte sur cet anon, c'est-à-dire qu'il commence à régner sur eux, pour substituer sur les gentils, pour substituer à l'empire du péché dans une chair voluptueuse, celui de la justice, de la paix, de la joie dans l'Esprit Saint. Donc il y a un changement complet de vie. C'est pour ça aussi, pendant la grande veillée pascale, le soir du samedi saint, la nuit de samedi à dimanche, pour porter le Sauveur qui est symbolisé par le cierge pascal représente notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien le diacre qui va chanter l'Exultet, donc il va chanter le Préconium pascal, c'est-à-dire le chant d'annonce de la Pâque, de la résurrection du Christ, revêt une dalmatique blanche. Une dalmatique blanche, il était en violet auparavant, il revêt le prêtre était en violet, il ne peut pas passer en blanc s'il est seul, sinon c'est le diacre qui le fait, qui va revêtir, une dalmatique blanche pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ amène la fin de la pénitence, la fin des conséquences du péché. Le violet représente la pénitence, le sacrifice. Notre Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice rédempteur, transforme le violet en blanc parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Un grand nombre des Juifs étendent leurs vêtements le long du chemin sous les pieds de l'annon. Donc, que figurent les pieds, les derniers d'entre les fidèles que l'apôtre établit pour juger leurs frères? Il y a tous ceux qui deviennent membres de notre Seigneur Jésus-Christ vont participer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les justes fleuriront comme le palmier, c'est le psaume de David qui le dit, psaume 91. Leur racine est petite, mais leurs fleurs et leurs fruits sont très étendus. Comme ils sont la bonne odeur de Jésus-Christ, ils étendent sur la voie des commandements de Dieu leur bonne renommée, et ceux qui marchaient en avant sont les prophètes, et ceux qui suivaient sont les apôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ est annoncé d'abord à une longue distance en avant par les prophètes, et derrière lui, les apôtres sont envoyés. C'est pour ça qu'après la résurrection, et pas avant, mais après la résurrection, exactement après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et la Pentecôte, une fois que les apôtres ont été remplis par le Saint-Esprit, alors ils vont être envoyés dans le monde entier pour prêcher, baptiser et sauver les âmes. Saint Bède le Vénérable fait remarquer, c'est en bas de la page 2, sur le polycopier, Saint Bède le Vénérable fait remarquer que cette multitude qui étend ses vêtements le long du chemin, ce sont les saints martyrs qui se dépouillent du vêtement de leur chair pour préparer la voie par leur sang aux fidèles moins avancés dans le service de Dieu. Cette multitude est encore la figure de ceux qui domptent leur corps par la mortification, pour ouvrir à Dieu le chemin de leur âme ou offrir de saints exemples à ceux qui veulent marcher sur leurs traces. Donc on suit notre Seigneur Jésus-Christ, et si on suit notre Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'on suive notre Seigneur Jésus-Christ va entraîner les autres. Les premiers qui ont dû frapper des mains et mettre leurs vêtements devant le passage de notre Seigneur, certainement étaient les apôtres. Et donc ils ont donné le bon exemple aux autres, et les Juifs vont tous suivre l'exemple et vont se mettre à eux aussi à chanter, à acclamer notre Seigneur Jésus-Christ à la suite des apôtres. Ceux qui coupent des rameaux ou des branches d'arbres représentent ceux qui recueille dans les écrits des pères la doctrine de vérité qui s'y trouve semée, et par une prédication pleine d'humilité la répandent sur la voix de Dieu dans l'âme de l'auditeur qui vient les entendre. C'est pourquoi le rameau est quelque chose de vivant. Et la sève qui donne la vie au rameau représente justement cette cette doctrine de vérité qui va être prêchée par les pères. Donc les apôtres vont couper, les gens qui sont là vont couper les rameaux des arbres, les branches d'arbres, qui sont vivantes, qui représentent justement la grâce du bon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'arbre vert. Malheureusement, cet arbre vert, il va être piétiné sous les pieds de la plupart des gens qui vont oublier que notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois et qui vont le traiter comme le dernier des derniers en le faisant crucifier. Il nous faut aussi joncher de rameaux enlevés aux arbres le chemin de notre vie, c'est-à-dire imiter les saints, car les arbres figurent les saints, et celui qui imite leur vertu coupe les rameaux de ses arbres. Nous aussi, il nous faut imiter les apôtres, et nous aussi proclamer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons dire « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Et nous avons le choix. Soit nous allons encenser, honorer, adorer publiquement notre Seigneur Jésus-Christ, soit nous allons malheureusement suivre le monde. Et au lieu de crier Hosanna au plus haut des cieux, bien nous allons hurler avec les Juifs qu'ils soient crucifiés, que son sang retombe sur nous et sur la tête de nos enfants. Encore une fois, mes bien chers frères, je vous conseille beaucoup, je vous l'ai déjà dit souvent, mais j'insiste, pour que justement après avoir écouté ce cours, pour ceux qui m'écoutent sur internet, relisez le texte des pères, relisez. Une fois que vous avez écouté le cours, j'espère que ces textes des pères, justement les extraits des pères de l'Église que je mets sur le polycopier, prendront tout leur sens parce que vous aurez écouté le cours. Nous avançons versets maintenant 11 à 14, en bas de la page 2. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Et après avoir regardé toutes choses, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. Et prenant la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de toi aucun fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Notre Seigneur Jésus-Christ va littéralement excommunier cet arbre. On va voir un petit peu ce que ça représente avec les pères de l'Église. Page 3. À peine entré dans la ville, Jésus se dirige vers le temple. Il nous donne ainsi un grand exemple de religion. Il nous apprend qu'en arrivant dans un endroit où se trouve une maison de prière, nous devons nous empresser de nous y rendre. Donc nous aussi, il faut qu'on fasse pareil. Moi, je m'oblige, comme font tous les prêtres, lorsque je rentre chez moi, après être sorti à l'extérieur, pour une raison ou pour une autre, je rentre chez moi, j'ai un petit bénitier juste à côté de la porte d'entrée, je mets le doigt dans l'eau bénite et je me signe, et je fais toujours une petite prière au Saint-Sacrement qui est juste à côté, dans ton petit oratoire, avant d'aller m'occuper à mes affaires, même si j'ai avec moi, je sais pas, un sac de provisions, je m'arrête d'abord, faire une génuflexion pour adorer notre Seigneur. Il faut d'abord saluer le patron, vous voyez. C'est triste parfois de voir des gens qui rentrent dans nos églises, dans les oratoires, et puis qui ne pensent même pas à ce qu'ils font. Ils arrivent, ils s'assoient, puis ils attendent. C'est pour ça que l'Église conseille beaucoup à ceux qui rentrent dans une église. Par exemple, vous arrivez 5 minutes avant le début de la messe, il ne faut pas vous asseoir directement à votre siège dans l'oratoire, dans l'église. On se met d'abord à genoux pour adorer, même de façon très momentané, même si c'est pour 30 secondes ou une minute, on se met d'abord à genoux, et puis vous pouvez vous asseoir pour préparer votre missel, par exemple, ou commencer votre chapelet, je ne sais. Mais d'abord, un acte d'adoration, toujours. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va maudire ce figuier. Donc, dans l'intérêt des disciples, pour affirmer leur confiance, notre Seigneur Jésus-Christ va expliquer ce qui va se passer pour les âmes qui ne donnent pas de fruits. Notre Seigneur Jésus-Christ exige que ses enfants, après avoir reçu le baptême, et devenus donc enfants de Dieu, donnent des fruits. Rappelez-vous la parabole des talents. Celui qui a reçu des talents doit donner d'autres talents, il doit donner des fruits. Et celui qui ne donne pas de fruits, eh bien, il va être condamné. Et là, on voit très bien, notre Seigneur Jésus-Christ va maudire ceux qui ne donnent pas de fruits. Pour affirmer leur confiance, notre Seigneur va maudire ce figuier. Il va donner un exemple avec le figuier. Il n'y a pas de figue, donc ce figuier ne sert à rien parce qu'il ne donne pas de figue, et donc il va le maudire. Pourtant, fait remarquer l'évangile, ce n'était pas le temps des figues. Vous voyez? Pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, transforme par sa grâce la nature. Ce n'était pas selon les lois de la nature de donner des figues à ce moment-là. Mais notre Seigneur Jésus-Christ va maudire le figuier pour bien montrer que des gens qui ont reçu la grâce du bon Dieu ont été transformés par la grâce du bon Dieu et presque contre nature, leur nature humaine qui les pousse vers les choses du monde vont devoir s'élever vers le bon Dieu et donner des fruits surnaturels. Et s'ils ne donnent pas des fruits surnaturels en n'utilisant pas la grâce de conversion qu'ils ont reçue pour une bonne confession, une bonne communion, une retraite, je ne sais, eh bien ils seront condamnés. Donc ne soyons pas maudits de Dieu, c'est une parole terrible, c'est la parole dans le grand discours eschatologique de saint Matthieu, allez maudits au feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. C'était absolument affolant d'entendre cette parole. Alors il faut méditer aussi la parole que notre Seigneur Jésus-Christ va donner du bon côté, aux côtés des brebis, venez les bénis de mon Père, possédez le royaume de Dieu. Alors, il faut vivre de telle façon que le jour où je meurs, bien, je fasse partie des bons, des brebis, et pas du côté des boucs. Jusque-là, en effet, Jésus avait partout semé les bienfaits sous ses pas et n'avait puni personne. Il importait donc qu'il donnât un exemple de sa puissance vindicative pour apprendre aux disciples qu'il aurait pu dessécher de la même manière les Juifs, ses persécuteurs. Mais il ne voulut pas exercer sur les hommes cet acte de sévérité, c'est sur un arbuste qu'il l'a fait éclater. Donc pour donner une leçon à ses apôtres, il va maudire le figuier. Pour bien montrer, vous voyez, si je peux maudire un figuier, je peux aussi maudire une âme qui me refuse. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas maudire le figuier, l'âme qui le refuse aussi vite qu'il a maudit le figuier. Le figuier se présentait sans figue, il est maudit. Par contre, l'âme, le bon Dieu va lui donner de nombreuses chances. On voit comment notre Seigneur Jésus-Christ va pardonner, repardonner. Rappelez-vous Saint-Pierre qui demande à notre Seigneur combien de fois est-ce que je dois pardonner, notre Seigneur Jésus-Christ de répondre 70 fois, 7 fois. Toutes ces circonstances autorisent suffisamment cette conclusion que le Sauveur voulait donner un exemple de sa puissance pour prévenir l'abattement où sa passion devait jeter ses disciples. Là, il leur rappelle qu'il est Dieu, il est maître de la créature, même des créatures matérielles. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de donner un ordre à un figuier sans âme, il a un pouvoir aussi sur les âmes. Son dessein était de leur prouver qu'il pouvait exterminer en un moment, s'il l'eût voulu, ceux qui devaient les crucifier, ce qu'il va dire aussi à Saint-Pierre. Ne savez-vous pas que je pourrais demander à mon Père 12 légions d'anges pour éliminer tous mes ennemis? Il faut que l'écriture soit remplie, donc je vais accepter ma passion. Donc s'il avait voulu, notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu faire un grand miracle et convertir tous ces gens. Il aurait pu convertir Hérode, il aurait pu convertir Caïphe, il aurait pu convertir Judas. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans sa justice, dans sa miséricorde, notre Seigneur Jésus-Christ respecte notre libre arbitre. Il a donné aussi des grâces à Judas. Judas a vu lui aussi les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, il aurait pu se sauver. Et si c'était humilié suffisamment, s'il n'était pas tombé dans l'avarice, eh bien, il se serait sanctifié avec Saint-Pierre et il y aurait eu un Saint-Judas. On le voit aussi très bien plus tard dans la Passion, au moment de l'histoire des deux larrons, Dismas et Gestas. Ils sont tous les deux à quelques mètres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a un qui se convertit par l'autre. Pourquoi? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ qui a converti Saint Dismas, pourquoi il n'a pas converti Gestas, le mauvais larron? Est-ce qu'on peut dire, ce que disent certains, que ce n'est pas de sa faute si le mauvais larron s'est damné, parce que le mauvais larron, il a perçu les grâces. Il a perçu les grâces parce que le bon Dieu savait qu'il refuserait ses grâces. Vous voyez, c'est encore une fois l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'Église. Dieu respecte notre liberté. Et quand il sait par avance, parce qu'il sait, il est Dieu et sait tout, il sait que nous n'allons pas utiliser notre libre arbitre pour suivre le bien. Dieu donne à cette personne qui va refuser d'utiliser son libre arbitre pour servir Dieu, il va donner une grâce simplement suffisante. Et malgré le terme, cette grâce suffisante est insuffisante pour le salut. Il faut une grâce efficace pour se sauver. Dieu, au contraire, qui savait que Dismas allait répondre à la grâce, il faut lui donner une grâce efficace et Saint Dismas sera le premier élu au ciel. N'oubliez pas que la première personne à utiliser les grâces de la passion, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sera un bandit repenti. C'est pour ça que Saint Dismas, qui a été canonisé par notre Seigneur, puisque notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis, c'est une canonisation ça. Eh bien, cette canonisation entraîne que Saint Dismas est fêté le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme, selon la tradition, notre Seigneur Jésus-Christ est mort un 25 mars, eh bien, il sera... C'est le 25 mars, puisque Saint Dismas est mort un 25 mars, le jour du vendredi saint, le premier vendredi saint. Eh bien, puisque Saint Dismas est mort un 25 mars, donc le jour de sa naissance au ciel, eh bien, c'est le 25 mars. En fait, Saint Dismas, le 25 mars. Les pères font remarquer, c'est très beau, que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé au monde, dans ce monde, un 25 mars. Puisque c'est le 25 mars que la Très Sainte Vierge Marie, en disant qu'il en soit fait en moi selon votre parole, en acceptant la parole de l'ange, qui lui annonce qui lui demande si elle accepte de devenir la mère du Sauveur, après son acceptation, son fiat, notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne dans le sein très pur de la Très Sainte Vierge Marie, c'est un 25 mars. Eh bien, il va rester sur cette terre pendant 33 ans, avant de remonter au ciel. Et il est né sur terre, dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, un 25 mars, et c'est un 25 mars, 33 ans plus tard, qu'il va mourir sur la croix. Dans le sens mystique, disent les pères, notre Seigneur, c'est en haut de la page 3, dans le sens mystique, notre Seigneur entre dans le temple, et en sort aussitôt pour montrer qu'il allait l'abandonner comme une solitude déserte et exposer la dévastation des voleurs. Parce que nous avons fait du temple de Dieu une caverne de voleurs, notre Seigneur Jésus-Christ va rentrer dans une sainte colère. Notre âme est un temple, mes bien chers frères, par le baptême. Le baptême va donner à notre âme la dignité de temple de Dieu. Mais si nous vivons dans le péché mortel, si nous profanons ce temple, ne soyons pas surpris que notre Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là nous rejette. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut accepter, ne peut tolérer de partager sa gloire avec d'autres personnes. Et donc il va prendre un fouet de corde et il va nous mettre dehors. Comme il l'a fait avec les marchands du temple, justement parce que ils ont refusé de remplir leur devoir d'État. Le dessein de notre Seigneur Jésus-Christ, disent donc les pères, je répète, était de leur prouver, de prouver à tous ces gens qu'il pouvait les exterminer s'il l'eût voulu. Hein? Il aurait pu abandonner tous ces gens-là, il ne les abandonne pas. Donc il va encore montrer une fois de plus sa mansuétude à l'égard des hommes en acceptant de monter sur cet anneau et de rentrer à Jérusalem ainsi. Et il prouve encore, par ce miracle qu'il vient de faire, parce que c'est un miracle, en maudissant le figuier, il montre qu'il est le créateur de toutes les choses, même des plantes qui n'ont pas d'âme raisonnable, mais qu'une âme purement végétative. Donc Saint Bède le Vénérable nous dit que Jésus observe avec attention tous les cœurs et ne trouvant pas où reposer la tête dans ses contradicteurs de la vérité, il se retire chez les fidèles. Et fixe sa demeure parmi ceux qui lui obéissent, car Béthanie signifie la maison de l'obéissance. C'est au verset 11, il s'en alla à Béthanie avec les 12 apôtres, dans la maison de Saint-Lazare. Les actions du Sauveur sont paraboliques, comme ses discours. Ainsi, la fin semble pressée de chercher sur un figuier des figues dont la saison, il le savait bien, n'était pas encore venu. Et cependant, il le frappe d'une stérilité perpétuelle pour montrer que le peuple juif ne pouvait être sauvé par des feuilles sans fruits, c'est-à-dire par les paroles de justice qui étaient sur ses lèvres sans être accompagnées des bonnes œuvres, mais qu'il serait arraché et jeté au feu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit là que puisque les juifs n'ont pas voulu donner des fruits, n'ont pas voulu se convertir, au moins pour tous ceux qui ont refusé la conversion, parce que Dieu merci, beaucoup de juifs se sont convertis, ils sont devenus des catholiques. Je vous ai déjà dit une fois que les premiers apôtres étaient pratiquement tous des juifs convertis. La Sainte Vierge Marie était de race juive, n'oublions pas, les apôtres aussi, pour la plupart d'entre eux. Donc, les apôtres étaient juifs, donc, et notre Seigneur Jésus-Christ, justement, va donner à ces juifs qui se convertissent la grâce de devenir des enfants de Dieu. Mais ceux qui le refusent seront rejetés. C'est le symbole de cet arbre qui est maudit de Dieu. Ça représente, nous disent les pères, la malédiction sur le peuple juif qui refuse notre Seigneur. Rappelez-vous la phrase de l'évangile, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est la malédiction qu'eux-mêmes se sont donnée. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit votre sang retombera sur vous et sur la tête de vos enfants. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui l'ont dit. Que son sang retombe sur nous et sur notre tête et la tête de nos enfants. C'est terrible, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier pour que nous aussi, que nous soyons préservés de ces erreurs. Nous ne suivions pas le mauvais exemple des Juifs. Si les Juifs ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, malgré tous les miracles et l'accomplissement de toutes les prophéties, on sera peut-être tenté de faire la même chose. On n'est pas meilleur qu'eux. Hein. Et sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas un péché que les Juifs ont commis qu'on ne soit pas capable de faire. Donc attention. Donc la malédiction donnée par notre Seigneur Jésus-Christ sur ce figuier représente la malédiction sur les âmes en général qui devraient donner des bonnes œuvres mais qui n'en donnent pas, qui sont donc stériles spirituellement parlant et qui seront arrachées et jetées au feu. C'est pas simplement le peuple juif là qui est ici représenté, mais aussi chacun d'entre nous. Et n'oublions pas qu'un jugement d'un catholique baptisé sera beaucoup plus sévère qu'un jugement d'un juif qui n'est pas baptisé, parce que le catholique qui est baptisé a beaucoup plus reçu. Et donc le jugement va correspondre aux grâces qui ont été données à cette âme. Notre Seigneur Jésus-Christ ne va donc pas juger tous les hommes de la même façon. Notre Seigneur, donc pressé par la faim, c'est-à-dire plein du désir de sauver le genre humain, voit un figuier, c'est-à-dire le peuple juif couvert de feuilles, c'est-à-dire les oracles de la loi et des prophètes. Il faut d'orthographe ici qu'il faut que je corrige. Il cherche à lui faire produire le fruit des bonnes œuvres par ses enseignements, ses miracles, et ne trouvant pas ce fruit, il condamne le figuier. Encore une faute là, c'est reproduit, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Il faut que je corrige ça. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le baptême, nous a donné ses enseignements, par son catéchisme, nous a donné la confession, la communion, la confirmation. Eh bien, il attend, il exige de trouver des fruits. Et s'il ne trouve pas de fruits, ben, il fera avec nous ce qu'il a fait avec le figuier. Vous aussi, nous disent les pères, si vous ne voulez pas être condamné par Jésus-Christ au jour du jugement, gardez-vous d'être un arbre stérile, mais empressez-vous d'offrir à Jésus-Christ pauvre le fruit de piété qu'il nous demande. Notre Seigneur Jésus-Christ exige des catholiques des fruits supérieurs à ce qu'il va exiger de quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême. Parce que le baptême ouvre la porte de notre âme à la grâce sanctifiante, à la vertu de charité. Donc il y a une beauté particulière chez un catholique qui a dans son âme un diamant du plus haut prix. Au contraire, ce diamant n'existe pas dans l'âme de quelqu'un qui n'est pas baptisé. Parce qu'il n'y a pas la grâce de la vertu de foi, la vertu de charité. Et donc, il faut nous rendre compte de notre devoir grave de protéger le trésor le plus extraordinaire que le bon Dieu nous ait donné. Les pères de l'Église comparent souvent ce travail de protection de notre âme à un bateau. J'ai un bateau qui doit traverser la mer du monde. Et dans le bateau, le bon Dieu a placé, le maître du bateau a placé une cargaison très précieuse. Et il faut que je transporte cette cargaison de l'autre côté de la mer. Et de l'autre côté de la mer, il y a quelqu'un qui attend la cargaison. Et moi, je dirige le bateau. Je ne suis pas propriétaire du bateau, mais je le dirige. Et il va y avoir plein d'obstacles. Il va y avoir les courants, il va y avoir les récifs, il va y avoir les pirates, il va y avoir les vents, il va y avoir un peu de tout. tout ça va se déchaîner contre mon bateau et je vais devoir godiller et avec les voiles, je vais devoir éviter les récifs, éviter les tempêtes, éviter les pirates pour pouvoir apporter le trésor que je porte dans les cales de mon bateau jusqu'au point d'arrivée. Et ce trésor, c'est la grâce sanctifiante. Donc le bon Dieu place dans l'âme du nouveau-né qui vient d'être baptisé un trésor extraordinaire qui est le trésor de la vertu de charité. Et comme la charité ne peut pas exister sans la foi et l'espérance, donc avec la charité, bien sûr, le bon Dieu va mettre dans l'âme de cet enfant également la foi et l'espérance, formée par la vertu de charité. Un trésor inestimable, c'est comme si le bon Dieu nous confiait un lingot d'or, si vous voulez, toute proportion gardée, et nous demandait de transporter ce lingot d'or pour un long voyage. Il ne s'agit pas de porter le lingot d'or à la vue de tout le monde, on va se faire voler. Il faut l'envelopper soigneusement, le protéger, et ne pas dormir sur ses deux oreilles pendant la nuit. Il s'agit de veiller pour protéger le lingot. Et le trésor que nous portons en notre âme est bien tout à fait supérieur au trésor du lingot d'or. C'est bien plus que ça. Donc gardons-nous d'être un arbre stérile et offrons-nous, empressons-nous, disent les pères, d'offrir à Jésus-Christ pauvre le fruit de la piété, de piété qu'il nous demande. Car c'est le matin qu'il vient vers les Juifs, mais c'est au soir du monde qu'il nous visite. Le soir du monde, c'est notre mort. Le matin, c'est le baptême. Donc il nous visite par le baptême, mais le soir de notre vie, il va redemander des comptes de ce qu'il nous a donné par le baptême. Saint Jean Chrysostome nous dit que voilà ce qu'il nous dit Saint Jean Chrysostome. On peut encore dire que le Sauveur a maudit ce figuier sur lequel il n'avait point trouvé le fruit qu'il demandait avant le temps. Parce que tous ceux qui accomplissent les commandements de la loi, celui-ci par exemple, vous ne commettrez point d'adultère, sont dit porter du fruit dans leur temps. Donc il faut porter des fruits par la pratique des 10 commandements. En fonction de notre devoir d'État, eh bien nous allons surtout devoir pratiquer tel ou tel commandement selon les circonstances. Eh bien, le bon Dieu nous demande de remplir ce devoir d'État en temps et en heure. C'est pour ça que le bon Dieu nous donne par les sacrements des grâces différentes selon le devoir d'État de chacun. Chaque sacrement donne une grâce spéciale qu'on appelle une grâce sacramentelle. Puisqu'il y a 7 sacrements, il y a 7 grâces sacramentelles. Et non seulement le bon Dieu nous donne une grâce sacramentelle qui va correspondre à ce que le travail que doit faire la grâce dans notre âme en fonction des circonstances, le bon Dieu, plus que ça, va aussi nous donner des grâces actuelles pour les cas précis dans lesquels nous nous trouvons. Donc, chaque fois que je me confessais, par exemple, je reçois la grâce sacramentelle du sacrement de pénitence. À chaque fois que je communie, je reçois la grâce sacramentelle du sacrement de la Sainte Eucharistie. Par la confirmation, je reçois la grâce sacramentelle du sacrement de confirmation. Par le mariage, je reçois la grâce sacramentelle du sacrement de mariage qui va m'aider à remplir mon devoir d'État en tant qu'époux ou épouse, père ou mère de famille. Par contre, si je reçois le sacrement de l'ordre, pour moi qui suis prêtre, le jour où j'ai reçu le sacrement de l'ordre, eh bien le bon Dieu m'a donné la grâce sacramentelle du sacrement de l'ordre qui va m'aider à remplir mon devoir d'État comme prêtre. Et cette grâce sacramentelle du sacrement de l'ordre n'est pas la même que la grâce sacramentelle du sacrement de mariage, parce que le devoir d'État d'un prêtre n'est pas le même que le devoir d'État d'un époux, d'une épouse, ou d'une épouse, d'un père ou d'une mère de famille. Celui au contraire qui, non content d'éviter l'adultère, pratique la virginité, ce qui est beaucoup plus parfait, s'élève au plus haut degré des vertus. Donc là, l'Église a toujours enseigné la supériorité de la virginité sur la vie commune. La vie commune, c'est la vie dans le mariage. La vie dans le mariage est bonne pour ceux qui y sont appelés. Mais la virginité consacrée, faite par amour du bon Dieu, est plus élevée, plus haute. L'Église a toujours enseigné la supériorité de la virginité sur l'état de mariage. C'est pour ça qu'on appelle l'état de mariage l'état de vie commune. L'état de vie commune dans le sens que c'est l'état que les gens qui ne sont pas appelés d'une manière spéciale peuvent suivre. Au contraire, la virginité consacrée correspond à une vocation. Qu'est-ce que c'est qu'une vocation ? C'est un appel. Donc il y a un appel spécial pour certaines personnes, Dieu qui regarde le jeune homme riche, qui le regarde et qui l'aima d'une façon toute particulière. Il lui donne la vocation. Malheureusement, le jeune homme riche qui avait beaucoup de biens ne va pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je n'ai pas de vocation religieuse, le bon Dieu ne m'a pas appelé à cette voie plus parfaite, j'ai le droit, bien sûr, de me sanctifier dans la voie commune qui est la voie du mariage. Pour ceux que le bon Dieu veut dans cet état, parce qu'il y a des gens qui vont se sanctifier, non, ni dans la voie parfaite, la voie de la virginité consacrée, ni dans la voie du mariage, mais qui vont devoir pratiquer la virginité dans le monde, ce qui n'est d'ailleurs pas si facile que ça. Le Seigneur donc exige des parfaits, la pratique non seulement des devoirs ordinaires, mais des vertus supérieures à ce qu'exigent les commandements. Donc pour ceux qui ont une vocation particulière, en plus des commandements, le bon Dieu va donner quelque chose de plus, ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Les trois conseils de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ce sont des conseils. Des conseils pour ceux qui sont dans le monde, qui ont le droit d'essayer de suivre l'esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais pour ceux qui sont dans la virginité consacrée, le bon Dieu va les lier par des vœux d'obligation, le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance. Parce que justement, il exige d'eux davantage, précisément parce qu'ils ont reçu la grâce de la vocation que le bon Dieu n'a pas donnée à tout le monde. Voilà, mes chers frères, ce qu'il faut comprendre. Alors, on commence le passage suivant, versets 15 à 18, en bas de la page 3. Ils vinrent ensuite à Jérusalem et Jésus, étant entré dans le temple, se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne permettait pas que personne transportât aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en leur disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ayant entendu cela, les princes des prêtres et les scribes cherchaient un moyen de le faire mourir, car ils le craignaient, parce que toute la foule était dans l'admiration au sujet de sa doctrine. Je vous l'ai déjà dit, mes bien chers frères, notre âme est le temple de Dieu. Et le bon Dieu, si nous vivons dans le péché mortel, voit avec désastre que nous avons transformé la maison de Dieu en une caverne de voleurs. On transforme la maison de prière, la maison de Dieu, en une caverne de voleurs si on vit dans le péché mortel. Alors à ce moment-là, le bon Dieu va sortir le fouet, les cordes, pour renverser, chasser tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, et renverser les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Donc si je ne vis pas en état de grâce, notre Seigneur Jésus-Christ va avoir cette sainte colère contre nous, attention. Nous, c'est très difficile d'avoir des saintes colères. On a trop tendance à dire que nous avons des saintes colères. Que le bon Dieu qui est capable d'avoir une sainte colère. Nous, c'est très très difficile. Des grands saints, ils sont arrivés. Il est certain qu'on ne peut pas tolérer le péché. Donc des parents doivent avoir parfois une main un peu ferme pour reprendre leurs enfants, leurs adolescents par exemple, qui veulent vivre dans le péché, essayer de les reprendre pour les aider. Si notre Seigneur Jésus-Christ a mis à la porte tous ceux qui étaient indignes dans le temple, et bien notre Seigneur Jésus-Christ nous demande aussi de ne pas maintenir dans notre cœur, dans notre âme, des choses qui sont indignes et exige que nous mettions à la porte de notre âme, les choses qui sont indignes. Est-ce que je garde dans mon âme, sanctifiée par le baptême, temple de Dieu par le baptême, est-ce que je garde dans mon âme des choses qui n'ont rien à y faire ? Notre Seigneur est rentré dans ce temple qui était une maison de prière et là il y avait des gens qui gardaient des choses dans ce temple qui ne devaient pas y être. On pouvait vendre des animaux pour le sacrifice. Il y avait des brebis, des boucs, des brebis, des agneaux qui étaient vendus pour le sacrifice, peut-être des bœufs même, mais pas dans le temple. Ils devaient être vendus sur la place devant le temple et pas dans le temple lui-même. Alors posons-nous cette question, dans quel état est le temple de mon âme ? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ va trouver mon âme suffisamment belle pour qu'il puisse y rentrer, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il va prendre un fouet de corde pour mettre sans dessus dessous, parce que justement, j'agis comme un changeur dans le temple de Dieu, et qu'au lieu de vénérer la présence de Dieu dans mon âme, eh bien, j'ai fait rentrer dans mon âme des choses qui n'ont absolument rien à y faire. Voilà, nous allons terminer par une prière. Donc, je vous conseille encore une fois, après ce cours, pour ceux qui l'ont déjà entendu, après l'avoir entendu, de relire ce cours pour précisément en tirer en quelque sorte la moelle des pères. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.